Bonsoir tout le monde, bienvenue à cette troisième édition du Sportif de Salon. Ici Nicolas Salin, et cette semaine, j'ai encore prévu pour vous autres une excellente émission. On va commencer par parler de hockey de la Ligue nationale. Je vais encore faire, comme d'habitude, mon compte-rendu de ce qui se passe dans la NHL. Ensuite, je vous parle de football, et spécialement de cette journée de Thanksgiving aux États-Unis. On a trois matchs diffusés, je vous parle de ça. Après ça, je vous parle de football universitaire canadien. On a la Coupe Vanier qui s'en vient avec les Carabins de Montréal en finale. Donc, je fais une rubrique à ce sujet. Par la suite, je vais vous parler de Lionel Messi et de la situation du soccer en Europe présentement, qu'est-ce qui se passe dans la Ligue des Champions surtout. Puis je vais terminer en vous donnant les rendez-vous à suivre pour la semaine prochaine. Donc, je vous souhaite à tous une très bonne émission.
Ladies and gentlemen, welcome to the main event.
Commençons l'émission comme à l'habitude avec le hockey de la Ligue nationale et le Canadien de Montréal. La semaine passée, j'ai eu la chance d'aller voir le CH jouer. C'était jeudi contre les Blues de Saint-Louis, puis j'ai vraiment eu l'honneur d'assister à une belle rencontre de hockey, une victoire du Canadien 4-1 contre les Blues qui sont un adversaire très coriace, on va se l'avouer, une puissance dans la Ligue nationale et dans la conférence de l'Ouest. Les joueurs du Canadien se sont levés. Après première période plus difficile où on a senti que les Blues avaient le contrôle. Après ça, le Canadien est revenu du vestiaire, qui a lui a fait des gros arrêts. Puis ça a permis au Canadien de s'en aller vers la victoire sans jamais regarder derrière. Aller au Centre Bell, c'est toujours spécial. Je pense que tout le monde le sait pour ceux qui ont eu la chance de le vivre. L'ambiance est incroyable. Je pense que c'est la meilleure aréna dans la Ligue à ce niveau-là. Certainement là où il y a le plus de monde, où les Québécois, on voit qu'on est des vrais fans de hockey. Puis je suis vraiment chanceux d'avoir assisté à cette partie-là, comme je le disais. Maintenant, si on y va dans un contexte plus général, le Canadien qui est toujours premier au classement, à égalité à 33 points avec les Ducks d'Anaheim. Je vois pas, le CH ne semble pas montrer des signes de fatigue. On sait qu'ils ont échappé quelques matchs par des gros scores. On pense à dimanche contre les Rangers de New York qui ont perdu 5-0. Mais dans l'ensemble, le Canadien a quelques mauvaises performances, mais vogue au sommet du classement et ne montre pas des signes de ralentissement. Il affronte Buffalo deux fois dans les prochaines journées. Je vois pas comment le Canadien pourrait aller chercher deux autres victoires et conserver sa place au sommet pour la prochaine semaine. Si on fait un tour plus général de la Ligue maintenant, il y a les Islanders de New York qui vont super bien cette saison. Ils sont à 32 points, un point derrière le premier rang de la Ligue nationale. Les Islanders qui, après plusieurs saisons de misère où les mauvais résultats au classement s'enchaînaient, semblent avoir trouvé le rythme mené par leur leader John Tavares. C'est pas une chose que je déteste parce que j'ai John Tavares dans mon pool et ça va très bien cette saison. Mais les Islanders, visiblement, qui semblent avoir mis fin à cette image de franchise qui n'allait nulle part, et cette saison prouve à tout le monde qu'il y a des bonnes choses, il y a du bon hockey à Long Island. On regarde maintenant une franchise comme les Flyers de Philadelphie qui, après quelques bonnes saisons, semblent maintenant s'écrouler depuis 2-3 ans. Les Flyers qui avaient atteint la finale de la Coupe Stanley il n'y a pas si longtemps. Puis là, ben l'équipe semble aller nulle part. Puis je pense que le problème, c'est au deuxième étage qui se passe. Le directeur général de l'équipe fait des transactions. Puis je ne suis pas sûr que c'est toujours apprécié par les fans. On pense à une transaction cet été qui a envoyé Scott Hartnell aux Blue Jackets de Columbus contre R.J. Hamburger, un ancien de l'organisation. Hamburger, cette saison, 3 points en 21 matchs. Hartnell, 14 points pour les Blue Jackets. On se demande, est-ce que le DG des Flyers voit quelque chose que les partisans ne voient pas? Parce que Scott Hartnell, c'est un des vétérans les plus respectés, les plus appréciés de la foule. On fait ce genre de transaction-là, puis tout le monde se demandait ben, à quoi bon faire ça, puis on voit que ça n'a pas payé encore une fois. Donc, la direction des Flyers a des sérieuses questions à se poser pour redresser cette équipe-là, puis l'amener là où à des sommets, puis retrouver leur forme d'antan d'il y a 4-5 ans. Maintenant, les exploits hier, Sidney Crosby a atteint le plateau des 800 points. C'est le sixième joueur à avoir atteint ce plateau-là le plus vite. Sidney Crosby, je pense que tout le monde le sait, c'est le grand marqueur de la Ligue nationale. Pour ceux qui ont eu la chance de le voir évoluer junior, dont moi, on savait déjà qu'à 16 ans, ce gars-là, ça allait être une machine. Puis il répond encore une fois, ça fait presque maintenant 9 saisons, je crois, qu'il joue dans la Ligue nationale. Année après année, tout le monde. Avant, il y avait une petite course avec Malkin, Ovechkin, savoir qui allait finir premier pointeur. Maintenant, il n'y a juste plus de questions à se poser. C'est Sidney Crosby, puis on sait qu'il va aller chercher le championnat des marqueurs chaque année après année. Reste à voir si le jeune Connor McDavid va être capable d'atteindre des sommets comme ça, mais il faut se l'avouer, Sidney Crosby, c'est le meilleur joueur depuis Wayne Gretzky, Mario Lemieux. Bref, c'est probablement un des 5 meilleurs joueurs, sinon un des 3 meilleurs joueurs de l'histoire du hockey. J'aimerais parler aussi de l'organisation des Oilers de Edmonton. Je pense que les Oilers, une autre saison qui vont nulle part, sont à 14 points. Bon dernier dans la Ligue nationale avec les Blue Jackets de Columbus et les Sabres de Buffalo. On se demande qu'est-ce que l'organisation des Oilers va faire pour sortir du fond de la cave. On sait que les Oilers ont eu beaucoup de premiers choix au repêchage dans les dernières années. Elles ont beaucoup de talent offensif, mais la filière défensive et entre les deux poteaux, on a beaucoup de difficultés à trouver des gens capables de remplir un rôle sur une base régulière dans la Ligue nationale. Donc, les Flames commencent à s'impatienter. On voit des manifestations, les joueurs qui se font huer, des chandails qui sont tirés sur la glace. Je pense qu'on doit procéder à une transaction, échanger un de nos joyaux, que ce soit Taylor Hall, que ce soit Jordan Eberle, que ce soit Ryan Nugent-Hopkins. Neil Yakupov n'a plus la valeur qu'il avait. Donc, un des trois premiers que j'ai nommés pour aller chercher un défenseur, un gardien de but d'impact pour changer la dynamique de cette équipe-là. Il y a une rumeur qui parle d'envoyer David Perron dans une autre équipe. Je pense pas que David Perron, c'est le joueur qu'il faut transiger. Il faut sacrifier un autre joueur jeune pour avoir de la marchandise et non pas des joueurs au repêchage. Ça prend des joueurs prêts à jouer maintenant pour que les fans ne perdent pas espoir et que la franchise s'en mette sur les rails. Maintenant, je vais parler un peu de football américain parce qu'aujourd'hui, c'est Thanksgiving aux États-Unis et comme à chaque année, on a des matchs de football toute la journée à la télévision. Ça a commencé, c'est un programme trip aujourd'hui. Ça commençait à midi avec les Lions de Détroit qui affrontaient les Bears de Chicago. Mais Lions qui l'ont emporté par la marque de 34 à 17. Le match vient tout juste de se terminer. Belle performance des Lions. J'ai écouté le match un peu pendant que je préparais ma chronique. Les Lions, Calvin Johnson a encore un gros match. Deux réceptions pour des touchés, plus de 100 verges de gain. Il a gagné le joueur le plus utile du match de Thanksgiving. Je pense que les Lions, avec une fiche de 8-3, peuvent aspirer à de belles choses pour les séries éliminatoires. Puis je conseille à tout le monde de les regarder. Moi, c'est mon équipe, c'est l'équipe que je supporte. Et ils ont une des offensives les plus menaçantes de la ligue. Et quand ils décident de pousser tous dans la même direction, cette équipe-là peut faire beaucoup de ravages. Donc, je vous conseille de suivre les Lions pour le reste de la saison. Après ça, à 4h30, on a les Eagles de Philadelphie qui vont affronter les Cowboys de Dallas. Un autre match à surveiller, Tony Romo. Encore une fois, grosse saison pour les Cowboys. Un peu de ralentissement par les dernières semaines, mais les Cowboys qui restent une très bonne formation de la ligue. Ce soir, on a une reprise de la demi-finale des séries l'année passée entre les 49ers et les Seahawks de Seattle à 8h30. Je pense que ça va être un excellent match également. Pour les amateurs de football, c'est une belle journée remplie de belles confrontations. Donc, je vous souhaite de bons matchs. J'espère que ça va être à la hauteur de vos attentes. Puis, je souhaite joyeux Thanksgiving s'il y a des gens des États-Unis qui mettent la main sur ce podcast. Maintenant, parlons un peu du football universitaire. Les Carabins de Montréal qui s'en vont à leur première finale de la Coupe Vanier de leur histoire. Je pense que c'est pas rien. Je suis content. Je suis un peu déçu parce que je suis un fan du Rouge et Or. J'étudie à l'Université Laval. Mais avant d'aller étudier là, j'ai toujours un peu été un fan des Carabins parce que je leur souhaitais de battre la puissante équipe de Laval. J'ai assisté au match au final de la Coupe de Dunsmore au Peps de l'Université Laval. Et je peux dire que les Carabins, ils n'ont pas volé ce match-là contre le Rouge et Or. La meilleure équipe l'a emporté. Puis malgré le fait qu'en tant qu'étudiant à l'université, ça m'a fait un petit pincement de ne pas voir le Rouge et Or continuer, je suis très content pour l'organisation des Carabins de Montréal. Et j'espère que ça va amener plus de joueurs à rejoindre ce programme-là pour donner plus de compétition au Rouge et Or année après année. Parce que je pense que ça suffit. Le Rouge et Or ont perdu pour la première fois à la maison depuis 10 ans, après 70 victoires consécutives à la maison. Je pense que c'est assuré. Les partisans, les amateurs de football universitaire souhaitent voir plus de matchs serrés. Si je pense au match avant la finale, la Coupe Dunsmore, les Rouges et Or ont remporté le match 75 à 18, je crois. Donc, c'était un vrai massacre contre les Stingers de Concordia. Donc, à part les Rouges et Or, maintenant, je suis content de voir qu'il y a au moins une autre équipe qui peut se rivaliser. Puis, j'espère que le programme va juste continuer de s'améliorer dans les années à venir. Je leur souhaite la meilleure des chances. Ils jouent contre McMaster, ce ne sera pas un match facile. Mais les Carabins qui ont la meilleure défensive au pays, donc on dit que la défensive remporte les championnats. Donc je souhaite la meilleure des chances aux Carabins de l'Université de Montréal pour remporter la Coupe Vanier. Maintenant, on parle un peu de la dynamique du Rouge et Or. On sait que le Rouge et Or est un peu trop fort. On parlait de peut-être faire une division avec regroupant les meilleurs programmes au pays. Faire une division plus forte, une division 2 avec les équipes moins fortes du pays. Mais je pense pas que ça c'est possible à cause du budget. La distance est trop grosse pour voyager. Le Rouge et Or va affronter les équipes de l'Ouest, etc. Donc, Brian Constantin a parlé qu'il fallait absolument que le Rouge et Or change de ligue pour améliorer le développement du programme. Et il parlait d'aller rejoindre la division 1 aux États-Unis. À la base, c'est plus viable parce que géographiquement parlant, les voyages sont moins distancés, c'est moins coûteux pour le programme. Mais je crois pas que le Rouge et Or ait ce qu'il faut pour aller rivaliser en division 1. S'il aurait parlé de division 2, division 3 de football, j'aurais plus été d'accord. Mais je crois pas que le Rouge et Or de l'Université Laval, avec le football qui se pratique ici au Canada, est prêt pour affronter des gars qui jouent universitaires en première division américaine. Le football, premièrement, est totalement différent. En football à 2 essais, en football à 3 essais, il faudrait changer ça, il faudrait que le Rouge et Or s'adapte. Les zones de début, on rétrécit ça. C'est beaucoup de changements pour rejoindre la Ligue universitaire, mais c'est surtout le calibre des joueurs qui diffère. Je pense que les joueurs NCAA, première division, sont beaucoup plus gros, sont beaucoup plus puissants que les joueurs universitaires canadiens à un âge similaire. Puis je pense que ce serait pas une bonne solution parce que le Rouge et Or irait là-bas. Oui, ça donnerait plus d'adversité, mais je crois pas que le Rouge et Or soit de calibre. Si on parlerait de rejoindre une division plus basse, un collège américain, là, je vois que le Rouge et Or aurait des chances de l'emporter puis d'offrir un bon spectacle aux partisans. Parce que je crois que, comme je l'ai mentionné plus tôt, tout le monde est un peu tanné des volées, puis on souhaite avoir un peu d'adversité au PEP de l'Université Laval. Maintenant, parlons un peu de soccer, parce que moi je suis un grand fan de soccer, et cette semaine, Lionel Messi a battu le record de Raoul pour le plus de buts dans l'histoire de la Ligue des Champions. La semaine passée, il a battu également le record de plus de buts pour la Ligue espagnole. Donc Lionel Messi a 27 ans qui ne cesse de battre des records, mais je pense que la question est à se poser, est-ce le meilleur joueur de soccer à avoir vu le jour? On pense à Pelé, on pense à Diego Maradona. C'est les deux premiers noms qui me viennent en tête comme étant considérés comme les meilleurs joueurs de l'histoire. Maintenant, on peut ajouter Messi au lot. Est-ce que Cristiano Ronaldo fait partie de cette catégorie? Je pense que Cristiano Ronaldo, c'est un joueur exceptionnel. Moi, cet été, j'étais en Europe, j'ai eu la chance de le voir jouer avec le Real. Ce que ce gars-là peut faire avec un ballon, Cristiano Ronaldo, c'est tout simplement incroyable. J'étais assis au stade Santiago Bernabéu, je le regardais dans le réchauffement. Ce gars-là, un ballon pour lui, c'est rien. On dirait qu'il marche avec un ballon tellement que le ballon lui colle au pied. Il y a des gestes techniques que je crois même que Messi ne soit pas capable d'accoter. Mais dans l'ensemble, faut donner à César ce qui revient à César. Lionel Messi, à mes yeux, est supérieur à Cristiano Ronaldo, un joueur plus complet. Et Lionel Messi fait certainement partie de ce top 3 avec Diego Maradona et Pelé comme étant les meilleurs joueurs de l'histoire. Je ne dis pas que Cristiano Ronaldo n'a pas des chances d'arriver à ça, mais je pense que présentement, niveau accomplissement, tout ce qui manque à Lionel Messi, c'est une Coupe du Monde. Sinon, il a accompli tout ce qu'il fallait pour faire partie de l'équation et être considéré comme le meilleur joueur de l'histoire au soccer. Je pense que le FC Barcelone cette saison qui peut aspirer à des grandes choses, le Real Madrid qui va très bien également, ça va être une bataille à deux dans la Ligue espagnole. Je vois même ces deux équipes-là faire un grand bout de chemin dans la Ligue des Champions. Reste à savoir ce que la loterie va, est-ce que ça va les avantager, est-ce qu'ils vont s'affronter avant la finale de la compétition, c'est ce qu'on va voir. Mais dans l'ensemble, Lionel Messi, selon moi, une petite longueur d'avance sur Cristiano Ronaldo. Au chapitre du meilleur joueur au monde présentement. On sait que Ronaldo a remporté le titre de joueur de l'année l'an passé. Mais je pense que cette année, ça va être le tour de Messi de reprendre son titre. Je vais maintenant parler de boxe un petit moment parce qu'il y a Manny Pacquiao qui a remporté son combat dimanche contre l'Américain Chris Algieri. Pacquiao, le combat est allé jusqu'à la limite, mais Pacquiao a dominé son adversaire entièrement du début à la fin. Il l'a fait chuter à 6 reprises et a même gagné jusqu'à par 18 points d'avance sur la carte de certains juges. Donc Pacquiao qui défait notre adversaire, et c'est ce qui m'amène ce qui nous amène à se demander quand est-ce qu'on va avoir enfin le combat qu'on attend tous, Floyd Mayweather contre Manny Pacquiao. On sait que Pacquiao veut ce combat-là depuis très longtemps. Mayweather qui est vraiment pas clair à ce sujet-là. Est-ce qu'il a peur d'affronter Pacquiao? Je pense pas. Parce qu'il y a tout ce qu'il faut pour battre un Manny Pacquiao. Floyd Mayweather qui est à mes yeux le meilleur combattant livre pour livre de la planète. Mais est-ce qu'on va enfin en 2015 avoir la chance de voir ce combat-là? On parle de que les bourses pourraient s'élever jusqu'à 200 millions de dollars. Manny Pacquiao qui a dit il est prêt à baisser sa bourse, donner plus d'argent à Mayweather pour que le combat ait lieu. Tout est dans les mains de Floyd Mayweather, mais j'espère que ce dernier va s'accrocher à la proposition de Pacquiao. On sait qu'il y a eu une petite guerre entre les deux sur les réseaux sociaux. Mayweather, cette semaine, qui a publié sur son compte Instagram la vidéo de Manny Pacquiao qui se faisait mettre KO par Juan Manuel Marquez lors de son combat de l'an dernier. Un peu pour rire de Pacquiao, mais Floyd, je pense que c'est le temps n'est plus aux paroles et aux actes. Et j'espère qu'en 2015, on va avoir la chance de voir ce combat-là parce que il n'y a pas un amateur de boxe sur la planète qui souhaite pas voir un tel combat. Maintenant, si on parle du combat au mois de décembre de Jean Pascal, il y a eu beaucoup de rebondissements dans ce gala-là. Il y a Lucien Gouteux qui a dû se désister pour une blessure qui était supposée être le main event de la soirée. Donc, on passe Jean Pascal en combat prioritaire. Il y a le combat de David Lemieux qui va être présenté sur écran géant pour les fans qui vont être sur place pour combler un peu le désistement de Lucien Bouteux. On a appris aujourd'hui qu'Herdès allait présenter le combat de Lemieux également à la télévision. Donc, pour les amateurs de boxe, ça va être un très bon combat, un combat très important pour la carrière de David Lemieux. Donc, à suivre sur RDS. Mais Jean-Pascal, lui, qui a vu son adversaire changer, puisque Donovan George, l'adversaire de Jean-Pascal, a dû se désister pour le combat. Donc, Jean-Pascal va affronter l'Argentin Roberto Bonucci, qui était supposé affronter Lucien Bouteille en finale du gala du 6 décembre. Donc, Bouteille se désiste, George se désiste, ben, les deux autres vont s'affronter. Ce sera Jean-Pascal contre Roberto Bonucci en finale de ce gala-là. On a bien hâte de voir ce qui va se passer dans le cas de Jean, puisque on sait que Jean espère un retour pour un combat de championnat du monde. Est-ce qu'en 2015, on pense immédiatement à Adonis Stevenson, on pense également à Sergey Kovalev. Donc, ce sera un combat très important pour la carrière de Jean Pascal, qui n'a pas boxé depuis presque un an. Voici maintenant le temps pour moi de vous donner les matchs à suivre dans le monde du sport en fin de semaine et pour la semaine prochaine. Demain, dans la Ligue nationale, il y a un très bon match entre Chicago et Anaheim. Deux bonnes puissances de l'Ouest qui s'affrontent. Ça devrait être très intéressant. Également, samedi, on a les Blackhawks qui se rendent à Los Angeles pour un gros match, encore une fois, de la conférence de l'Ouest. C'est deux équipes qui, selon moi, peuvent aspirer aux grands honneurs. Ça devrait être un très bon match. Et samedi également, on a une bataille californienne entre les Ducks d'Anaheim et les Sharks de San Jose. Ces matchs-là, c'est toujours très physique. Donc, si vous avez la chance de l'écouter, ne ratez pas ça. Dimanche, dans la NFL, on a un excellent match de prévu entre les Patriots de la Nouvelle-Angleterre, qui est l'équipe de l'or dans la NFL, et les Packers de Green Bay. Plusieurs pensent que c'est deux équipes qui peuvent aller au Super Bowl. Donc, je vous invite à écouter ça. Ça devrait être bon. C'est à 4h30 dimanche. Et on a également un match offensif contre défensive. Les Broncos de Peyton Manning qui vont affronter les Chiefs de Kansas City. Donc, une bonne offense contre une bonne défensive. Ça donne tout le temps de très bons affrontements. Je vous invite également à suivre les matchs aller, les matchs retour, pardon. Des séries de la MLS. On est rendu en finale de conférence. Le LA Galaxy qui affronte les Sounders de Seattle, l'équipe que moi j'ai favorisée pour l'emporter. Ben, le LA Galaxy mène 1-0 après le match aller. Dans l'Est, on a la Révolution de la Nouvelle-Angleterre qui mène 2-1 sur le Red Bull de New York après le match aller. Moi j'avais prédit une finale Seattle contre New York, donc les deux équipes que j'avais prédit tirent de l'arrière par un but après le match aller. Tout est possible pour le match retour, donc je vous invite à regarder ça. en fin de semaine. Ça termine pas mal l'émission d'aujourd'hui. Je l'ai faite un peu plus court. Je suis un peu pressé dans le temps. J'espère que vous avez apprécié ça. Et je vous invite à m'envoyer des courriels ou à aller sur ma page Facebook et de m'écrire soit un message privé, soit sur mon mur. Si vous avez des idées de sujets auxquels je pourrais parler dans ma chronique le sportif de salon, ou tout simplement des questions pour moi ou des commentaires, je prends tout. En fait, je vous invite même à le faire. C'est avec ça qu'on va bâtir un meilleur podcast, puis ça va me donner des idées de contenu que je peux parler dans mon émission. Donc, si vous avez un sujet qui vous vient en tête, quelque chose que vous voulez que je traite dans le podcast, ben vous n'avez qu'à passer par ma page Facebook, Nicolas Celant, sur Facebook, C-E-L-A-N-T, m'envoyer un message personnel ou ben tout simplement l'écrire sur mon mur, puis ça va me faire plaisir de parler de ce qui vous intéresse dans mon podcast. Donc, je vous remercie encore une fois d'avoir été présent. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne sur iTunes et je vous souhaite une très bonne semaine, les sportifs. Merci. I'm so glad we could spend this time together. See, I'm not as crazy as you thought I was. I need a miracle.